Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, intriga, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il a 3 ans et il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Dans ce 6e épisode, j'ai rencontré Paul, ou Paulette, pour ceux qui la connaissent à travers son blog, by Paulette. Maman de Louise, 9 ans, et de Lucien, âgé de 6 ans, j'ai découvert son univers il y a seulement quelques jours lorsqu'elle a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Pourquoi a-t-elle crié ? À cause de la difficulté qu'ont les mamans à concilier vie de famille et vie professionnelle. Ce même jour, drôle de hasard, je rencontrais Marlène Schiappa pour une table ronde ayant pour un des thèmes la maternité et l'entreprise. Avec Paul, nous discutons du choix de voir ses enfants plus d'une heure par jour, de discrimination à l'embauche et du présentéisme imposé en France. Bonne écoute ! Bonjour Paul, bienvenue dans Le Tourbillon et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi.
Alors pour commencer, on va faire un petit flashback sur ta vie après les études. Quel a été ton parcours professionnel en sortant de l'école ? Qu'est-ce que tu as fait comme études ?
Alors moi j'ai fait une école de commerce, parcours assez classique. Et à la fin de mes études, comme je voulais travailler dans la communication, je suis montée à Paris comme on dit. Je me suis vite rendu compte que l'univers des agences de communication m'intriguait. Et me voilà arrivée dans le grand bain, avec notamment une expérience assez longue dans une grosse agence qu'on connaît tous qui s'appelle Publicis. Quand je suis arrivée chez Publicis, je suis très vite tombée enceinte. Et c'est là que les ennuis ont commencé.
Quels étaient tes plans de carrière ? Comment tu envisageais le futur ?
Alors, je crois que j'ai jamais vraiment eu de plan. Je crois aussi que... Enfin, je sais maintenant que je suis pas quelqu'un de carriériste. C'est souvent un peu péjoratif ou peut-être que les gens pensent qu'on se dévalue quand on dit ça, mais c'est vraiment pas le cas. Je me suis vite rendu compte quand j'ai commencé à travailler, donc à l'âge de 24 ans, que j'avais envie de réussir à tout concilier. Et pourtant, quand j'ai commencé à travailler, la vie était plutôt douce, puisque je ne suis pas tout de suite arrivée chez Publicis, donc je ne suis pas tout de suite tombée enceinte. Quand j'ai commencé à travailler, je n'avais pas de contraintes, je n'avais pas d'amoureux, je n'avais pas d'enfants. J'avais, en gros, pour remplir mes journées, que mon travail et mes amis. Et ça se passait très bien. Je pouvais rester tard le soir quand il le fallait, ça ne me dérangeait pas. Quand on a cet âge-là, on se fait vite plein de potes au boulot qui deviennent finalement des amis, avec qui on va boire des pots le soir, et finalement, la boucle est bouclée, on vit un peu en vase clos. Et puis, quand j'ai eu 26 ans, j'ai rencontré mon chéri, et c'est un peu là que j'ai plus les mêmes envies, en fait.
Et donc, tu as eu 2 enfants, Louise et Lucien, vers la trentaine.
J'ai eu ma fille quand j'avais 29 ans et mon fils quand j'en avais 32. Donc on va dire ni jeune ni vieille, oui. Un peu au milieu quoi.
Et c'est surtout l'âge où on commence à évoluer professionnellement généralement,
ouais.
À la trentaine.
Moi j'ai pas vraiment évolué en fait.
Oui, ça arrive souvent.
Tout le problème.
Est-ce que la grossesse ou ton congé maternité a été un sujet par rapport à ton travail de l'époque ? Est-ce que aussi tu as eu peur de l'annoncer
J'ai eu très peur parce que, comme je te le disais tout à l'heure, j'étais dans l'entreprise où j'étais à ce moment-là depuis très peu de temps. J'étais très mal à l'aise. J'étais un peu dans tous mes états. J'ai pris rendez-vous avec mon responsable pour lui annoncer, qui lui en plus était un homme, je crois qu'il vivait pas en concubinage et qu'il n'avait pas d'enfant. Maintenant, quand une femme annonce qu'elle est enceinte, j'ai envie de dire c'est comme ça et faut faire avec. Les premiers temps, j'ai essayé de continuer à m'investir comme je le faisais depuis le début. ce qui a vraiment changé, c'est le regard des gens quand ils se rendent compte que ton ventre s'arrondit et qu'ils comprennent.
Le regard de tes collègues.
Le regard des collègues, ouais. Parce que t'es plus une collègue, t'es une femme enceinte. Et ça change tout en fait. La grossesse s'est plutôt bien passée. Comme c'était mon premier enfant, j'avais pas de... Je pouvais continuer à faire quand même des horaires conséquents, puisque la communication est un milieu très à part, avec des gens qui commencent tard et qui finissent tard. C'est comme ça que ça se passe, et voilà, c'est comme ça. Et voilà, je suis partie en congé maternité. Ça allait.
Du coup, quand tu dis que ça changeait tout d'être la nouvelle collègue enceinte, tu as vu quoi exactement de différent ?
Je crois que les gens te jugent, te scrutent sans être paranoïaque. Je pense qu'ils comprennent que à partir du moment où tu vas avoir un enfant, tu seras plus l'employé modèle.
Mmh. Ah oui, d'accord. C'est l'ambiance en fait qui change un peu.
Ouais. Après,
est-ce qu'on te donne moins de dossiers à traiter ?
Non, on m'a pas donné moins de dossiers. Après. Je reviens sur l'univers de la communication, même si je veux pas critiquer tout ça, c'est un milieu dans lequel j'aime travailler, mais il y a beaucoup de jeunes, et finalement quand tu es enceinte, tu quittes un peu le groupe des jeunes, tu passes, ah oui, tu vas avoir un enfant, tu vas devenir mère de famille, ça sera plus pareil. Après j'ai fait avec, j'ai continué à avancer en essayant de pas trop me préoccuper du regard des gens.
Et alors, comment s'est passé ton retour au travail ? Comment vous êtes organisée avec ton mari ?
Ça a été hyper dur. Quand j'ai repris le travail, Louise avait 3 mois. Le congé légal, c'est à peu près 2 mois et demi. J'avais réussi à mettre 2 semaines derrière. Avec mon conjoint, on venait d'acheter un appartement. On n'avait pas du tout, du coup, les moyens de se passer de mon salaire et que je prenne un congé parental. Donc, il a fallu y aller très, très vite. On a eu de la chance parce qu'on a eu une place en crèche. Quand je dis chance, c'est que au-delà de tout ce que proposent les crèches, j'étais hyper stressée à l'idée de faire garder ma fille le soir. Ou la journée d'ailleurs. Je m'étais mise à faire des rendez-vous à la PMI ou quand j'étais enceinte de 3 ou 4 mois. C'était vraiment ma flip absolue. Je voulais commencer à rencontrer des assistantes maternelles. Dans ma tête, je m'étais dit qu'on n'aurait jamais de place en crèche. Donc le fait d'en avoir une m'a vraiment... Je me rappelle avoir embrassé la dame de la mairie quand elle me l'a annoncé. C'était vraiment genre « waouh ». Mais qui dit crèche, avec des horaires assez conséquents, dit « nounou du soir ». C'est-à-dire que je ne pouvais pas être à la crèche à la fermeture. Et puis de toute façon, ça aurait fait des journées bien trop grosses pour ma fille.
C'était à 18h ?
Ouais, c'était à 18h. Et du coup, on l'a laissée à 8h30. Ouais, 8h30. Donc pour moi, c'était pas possible. Elle était trop petite... donc j'ai commencé à chercher une nounou du soir, une babysitter. Et pour me rajouter une petite contrainte, comme Louise était toute petite et que j'étais toute stressée, je voulais pas la laisser à une étudiante, je voulais la laisser à une maman. Parce que pour moi, je m'étais dit qu'une maman elle saurait réagir en cas de soucis, fièvre ou que sais-je quoi. Donc bah, ça a été très compliqué de chercher, j'ai commencé par... faire appel à une entreprise qui s'occupe de ce recrutement-là. J'ai eu quelqu'un, mais qui n'est pas resté longtemps, parce que c'était temporaire pour cette personne-là. Elle cherchait un poste vraiment à plein temps. Ma fille a été vraiment finalement gardée par beaucoup de gens, au final, parce que ça changeait régulièrement. Et c'est là que les enfants sont formidables, parce qu'ils s'adaptent vite, et ça s'est toujours très bien passé. Mais, quoi qu'il en soit, c'était pas effectivement moi qui... Je rentrais pour le dîner, en fait. Je gérais pas cette fin de journée-là. C'était dur, elle me manquait. Quand je suis arrivée au boulot, je me suis affichée ma petite photo à côté de mon poste de travail. J'avais un peu l'impression d'être tartignole, mais c'était vraiment très violent. Et encore, j'ai l'avantage, j'ai fait le choix de ne pas allaiter. Donc j'ai pas eu cette coupure-là charnelle avec ma fille. Hein. Je pense que c'est encore plus dur pour les mamans qui allaitent ou qui font le choix, et là c'est encore autre chose, un autre sujet, d'allaiter quand elles reprennent le travail. Mais bon, ça a été hyper dur, et puis j'ai pris mes marques, et malgré tout, une fois que j'ai eu pris mes marques sur la crèche et la nounou du soir, le truc qui a été l'enfer, c'est que ma fille donc, est rentrée à la crèche fin septembre, on est vite arrivée dans l'automne, puis l'hiver, elle a été malade un nombre de fois incalculable, et comme j'étais très fatiguée, parce qu'elle dormait pas encore très bien, on oublie, enfin, le sommeil est quand même le point quand on a des bébés. Ils font pas forcément leur nuit à 2 mois et demi ou 3 mois, loin de là. Et comme j'étais crevée, J'étais au bout du rouleau. Dès qu'elle était malade, j'étais malade derrière. Donc j'ai été très souvent absente, mais avec des certificats médicaux, bien évidemment. Et quand est arrivé mon entretien d'évaluation quelques mois plus tard, je m'en souviendrai toujours, ces espèces de coups de massue. On m'a dit on peut pas te faire confiance, t'es jamais là.
Mais sans prendre en compte que...
Ok. Et...
tu étais maman.
Et on m'a mis une pression de ouf. Et en gros, m'a fait comprendre que si je voulais progresser, enfin avoir une promotion, il allait falloir que j'envoie grave du pâté, quoi.
Et à ton retour de congé maternité, t'as jamais envisagé d'aménager tes horaires ?
Non, c'était pas possible. Je n'y ai même pas pensé. Ça fait partie de ces grosses entreprises où, avec une espèce de réunionnite aiguë, des réunions... je m'en souviens aussi, je me souviens des discussions avec mon conjoint, les réunions de vendredi soir à 18h qui commencent finalement à 19h. Enfin, c'est un rythme. Et quand mon conjoint me disait mais rentre, et c'était pas possible en fait. Donc au début, comme j'avais souvent ces fameuses réunions là, pas que le vendredi, aussi la semaine, et que Louise se couchait vers 20h, elle était petite, je la voyais pas à peu près 2 soirs par semaine, je la loupais. Je me rappelle encore hein, de courir après ce putain de bus pour essayer de la voir, pour me dire il faut que j'arrive, si j'arrive dans 10 minutes c'est bon, je la verrai, je lui ferai un bisou. Et l'échec des parfois en rentrant, en voyant mon mec, où il me disait ben, c'est trop tard, elle dort. C'est vraiment hyper dur quoi.
Ton chéri du coup lui pouvait se libérer
avec... Ouais, il pouvait se libérer parce qu'il travaillait à côté de chez nous.
D'accord.
Et donc du coup finalement heureusement qu'on a eu cet avantage parce que lui il allait travailler à pied, en 5 minutes il était chez nous et c'était lui qui prenait le relais de la nounou à cette époque-là. En fait ouais, c'était lui le backup. Il rentrait toujours à la même heure et puis moi ben je faisais en fonction de mes réunions.
Et donc, 3 ans plus tard, tu as l'arrivée de ton deuxième enfant, Lucien.
Ouais.
J'imagine que ça a dû se corser encore un petit peu plus. Là, tu devais avoir la crèche et la maternelle.
Alors non, Louise n'était pas encore à la maternelle. Elle était encore à la crèche. Tout s'est à peu près bien passé au départ. Je l'ai annoncé, bon, pareil, hein, j'avais plus le même boss, j'avais une femme.
T'étais toujours dans la même société.
Mais j'étais toujours dans la même société. Donc j'ai encore eu la soupe à la grimace, mais j'avais un petit peu vieilli, et donc du coup, je m'étais un peu endurcie. Tout se passait bien jusqu'à ce que le rythme à la con continue avec les réunions et les gros horaires. Que je fasse ma deuxième échographie et qu'on me dise « Madame, votre bébé est en dessous des courbes ». Alors, ça a été vraiment la douche froide, cette histoire de percentile, là, il était au-dessous, je comprenais pas, genre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, il va bien, oui, il va bien, mais juste, il est trop petit. On m'a très vite demandé ce que je faisais dans la vie, j'ai dit « voilà, je travaille en agence de pub ». On m'a dit genre « Ah, d'accord ». Et j'ai été arrêtée au départ à 5 mois de grossesse. On m'a dit « Il faut que vous vous reposiez ». Si vous êtes trop fatiguée, votre bébé grandira pas et ça pourrait devenir embêtant. Quand je l'ai annoncé à ma boss en lui disant j'ai fait mon écho, elle me dit ah, c'est bien passé. Bah oui, mais bon, je suis arrêtée pendant un mois, il faut que je me repose. Je crois qu'elle m'a pas pris trop sérieux au départ. Elle a dû me répondre un truc genre et pourtant elle avait un enfant. J'étais arrêtée et puis finalement je suis pas revenue parce que mon arrêt maladie a été prolongé
jusqu'au
terme. Ouais, parce que mon fils, enfin, il grossissait mais c'était pas encore mirobolant, donc dans ces cas là la santé du bébé prime tout le temps. J'ai accouché de mon fils, tout se passait très bien et puis la date de reprise est arrivée. Et comme j'étais partie à 5 mois de grossesse, ça faisait très longtemps que j'étais pas là. Donc j'ai pris rendez-vous avec les boss de l'agence, j'y suis allée en leur disant « je reviens dans un mois, qu'est-ce qui se passe ?» On m'a dit « Bon, écoute, on a pensé à toi sur tel et tel budget, est-ce que ça te va ?» De toute façon, j'avais pas vraiment le moyen de faire ma difficile. Et puis entre-temps, entre mes deux enfants, on m'avait promis une évolution et une augmentation qu'on me donnait jamais. Et j'avais tapé à des portes, j'avais vraiment... j'étais chiante, mais on me l'avait promis et on me le donnait jamais. Donc je me suis dit, c'est maintenant. Et donc je leur ai dit, ok, très bien, donc je vais travailler sur tel et tel, pour tel et tel client, et donc vous allez me donner mon évolution et mon augmentation. Et non. Et on m'a expliqué que c'était la crise, et que c'était pas possible. Et pourtant, j'avais des connaissances, des cas dans l'agence qui avaient eu des augmentations sans problème. Voilà. Et en fait, le cheminement dans ma tête s'est fait très très vite. Je me suis très vite dit qu'avec un enfant, ça avait été l'enfer. Vraiment, j'en ai chié. Donc je me suis dit, bon, ils vont me mettre au placard, c'est pas la peine, n'ouvrez pas la porte. Et j'ai demandé une rupture conventionnelle.
D'accord, à combien de temps après être revenue ?
Je suis pas revenue.
Ah d'accord, ok.
Non. D'accord. Comme je voyais que c'était foireux, j'en ai beaucoup parlé avec mon conjoint, parce que c'est une décision de couple, hein, quand même, c'est tout ça. Et voilà, et je suis pas revenue. Et je crois qu'ils étaient ravis que je revienne pas, parce que j'ai eu mon accord pour la rupture en moins de 24 heures.
Ah oui, très bien.
Voilà.
Et donc, suite à ça, tu t'es relancée dans la recherche d'un CDD ou d'un CDI ?
Alors, pas tout de suite. J'ai laissé passer le temps. Je raconte ça comme si c'était très simple, mais en fait, si ça a été simple dans les faits, ça n'a pas été simple dans ma tête. Voilà, je venais d'avoir mon deuxième enfant. Mon fils dormait très mal. J'étais fatiguée. Je me suis retrouvée un peu dans la solitude de la maison. J'ai encore eu la chance d'avoir une place en crèche. D'ailleurs, en parlant de ça, je me suis jamais cachée que j'avais arrêté le travail, même si on m'avait déconseillé d'être transparente, parce que on m'avait dit tu vas perdre ta place en crèche.
C'était à Paris ?
C'était à Paris, ouais. Et la directrice de la crèche a été merveilleuse en disant ben, bien évidemment, on garde votre fils à la crèche parce que sinon, comment vous allez chercher du travail ? Bien sûr. Mais bon, malgré tout, je me suis retrouvée dans un quotidien, une fatigue assez dure à gérer et j'ai fait une petite dépression. J'en pouvais plus, je savais plus où j'en étais, c'était, voilà. Donc j'ai laissé les mois un peu courir, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah peut-être falloir y aller. Et j'avais très très peur de retourner en entreprise, et j'ai fait le choix de créer une boîte avec une copine à l'époque. Entre la réflexion de la boîte, j'ai rencontré plein de gens pour en parler, le temps où on l'a montée et puis le temps où on a commencé à bosser, il s'est quand même passé pas mal de temps. Et quand je suis arrivée à la fin de mon chômage, au bout de 2 ans, la boîte était pas du tout, roulait pas du tout, et c'est encore arrivé sur la table le problème de l'argent. Je pouvais pas me permettre de pas gagner d'argent en ayant plus de chômage, c'était pas possible. Le salaire de mon mari ne me permettait pas de vivre, et puis au-delà de ça, moi j'avais envie de bosser. Donc on a arrêté la boîte, et moi je ne voulais faire que des CDD. Je ne voulais pas un CDI, je ne voulais pas rentrer dans cette routine qui me faisait vraiment peur. En 3 ans, j'ai enchaîné les CDD, j'en ai fait 3, avec donc des périodes de vie de milieu, mais enfin de vie d'arrêt, et ça s'est très bien passé. Et puis, au bout d'un moment, enfin, je me suis posé beaucoup de questions l'année dernière. Je pensais que j'en avais marre des CDD, qu'il fallait que je trouve un CDI pour avoir quelque chose de plus stable et de plus posé. Et finalement, je me suis rendu compte que non, c'était pas pour moi. Enfin, j'ai vraiment beaucoup changé d'avis. J'étais vraiment très perdue par rapport à ça. Et au final, j'ai décidé de me mettre en freelance en me disant, est-ce que ça serait pas ça, la super solution à tous mes problèmes ?
Donc ça, cette décision, c'était l'été dernier ?
Oui, exactement, il y a quelques mois.
Qu'est-ce qui, pour toi, a été plus simple dans les CDD plutôt que dans les CDI, en fait ? Qu'est-ce qui t'a fait...
Quand on est en CDD, on est moins attendu. J'ai fait notamment une majorité de remplacements congé maternité. Dans ces cas-là, ce qu'on te demande en gros, c'est de faire le relais pendant que la personne que tu remplaces n'est pas là, d'assurer le suivi des dossiers, que les clients soient contents. On te met pas une charge sur les épaules de dingue. Et donc quand tu n'as pas cette pression de ma boule sur les épaules, t'es toi plus détendu et tu te dis que quand tu fais tes horaires, c'est bien. Après, je suis quelqu'un, j'ai absolument pas un poil dans la main. Je suis pas du tout une glandeuse, vraiment loin de là. Je suis quelqu'un de productif. Je fume pas, je fais pas des pauses déj. Enfin si, ça m'arrive de déborder comme tout le monde, mais globalement, j'arrive jamais en retard les matins, je suis une obsédée de l'heure. Enfin, je bosse, quoi. Quand je suis là, je bosse. Mais quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Et les CDD sont plus... C'est plus simple, en fait. Je crois que c'est aussi, au-delà de l'entreprise, des dirigeants, de tes boss, etc., c'est toi dans l'état d'esprit dans lequel tu es. Mmh. Tu te sens plus cool. T'as plus moins de comptes à rendre. Mmh. Exactement.
Je vois. Et donc, dernièrement, tu as été en contact avec un cabinet de recrutement.
Ouais.
Avec lequel tu as mis carte sur table en disant que tu étais maman et que tu avais donc des contraintes horaires. Et c'est de là qu'est parti ton coup de gueule. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est simple. Donc, j'étais effectivement en contact avec ce cabinet de recrutement. J'avais rencontré la personne il y a quelques temps. On avait eu un super feeling, un mec vraiment extra. Tu sais, des fois, ça colle et c'est comme ça. Et quand il m'a appelé en me disant « Salut Paul, j'ai une mission à te proposer », je lui ai dit « Écoute, ouais, carrément, ça me plaît bien comme poste. En revanche, comme tu le sais, j'ai deux enfants. Alors, en plus, moi, je ne cache absolument jamais mes enfants. » Le fait que j'ai un blog est toujours sur mon CV, sur mon blog à l'âge de mes enfants. Je suis transparente sur tout. Le côté genre, je dis rien, c'est pas du tout mon truc. J'ai vraiment la transparence dans mon... C'est ma façon de voir les choses, quoi. Pour moi, c'est hyper important. Donc je dis, bah voilà, ok, mais moi, ce que j'aimerais, c'est arriver tôt et pouvoir partir... max à 18h, parce que je prends le relais avec mes enfants le soir, après le centre de loisirs. C'était chez un annonceur, donc il m'a dit, tu sais, les annonceurs, c'est quand même plus cool que les agences. Ok, j'étais vraiment hyper confiante. J'avais regardé goûter la boîte, je m'étais préparée sur le temps de transport, je m'étais dit, ok, ouais, franchement, ça peut être cool. J'avais vraiment hyper envie, en plus, d'aller bosser chez un annonceur pour voir une autre facette. J'étais à fond les ballons. Et puis le lendemain matin, je rentre de l'école, je check mes mails et je vois son mail et sur lequel il était écrit « Mon client ne souhaite pas te rencontrer car il peut y avoir 3 petits points du boulot après 18h » souligné.
D'accord.
Et ça a été vraiment la douche froide. J'ai pas compris, puis je crois que je comprends toujours pas en fait. Parce que du boulot après 18h, il peut aussi y en avoir après 19h, et puis après 20h, et après 21h. En fait, le boulot, il y en a tout le temps. Mmh. C'est quand même rare que tu te dises à 5h, plus rien à faire. À la rigueur, tu peux ne plus avoir envie de travailler et te dire, bon, je suis pas productif, je me barre, je le ferai demain en arrivant tôt, parce que j'aurai plus la niaque. Mais alors là, ça m'a coupé les pattes. Je lui avais dit en plus à ce recruteur que je pouvais très bien arriver vers 8h30 les matins. Mmh. Et quand tu calculais le nombre d'heures, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème. Et c'est là que du coup, j'ai pris mon téléphone portable et j'avais besoin d'extérioriser. J'étais toute seule chez moi. Je venais d'appeler mon chéri hein, pour lui dire. Mais bon, voilà, il était au boulot, il n'avait pas trop le temps de parler avec moi. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai posté des stories sur Instagram pour faire part de la situation. En disant ce que je viens de te dire, que je comprenais pas l'espèce de ça me faisait halluciner, et puis en râlant contre cette espèce de présentéisme à la française de c'est comme ça chez nous, on n'arrive pas trop tôt et en même temps on peut pas partir tôt le soir, ça se fait pas, c'est pas correct. Voilà, donc je poste mes petites stories en râlant tranquillement, et en fait ça a été complètement dingue pour le coup. Tu vois, ton podcast s'appelle Le Tourbillon. Je l'ai vécu cette journée-là. J'ai un tourbillon de commentaires incroyables avec des témoignages de mamans, parce que je suis suivie essentiellement par des femmes. Et ben, fou, quoi. En fait, on vit toute la même chose. J'ai eu des anecdotes, des collègues qui font les le coup du tu prends ton après-midi quand tu pars à 18h, ça on l'a raconté un nombre de fois fou, le regard des gens, une fille qui m'a écrit qu'elle avait fini par être licenciée parce que le fait de faire des horaires décalés démotivait ses collègues. Enfin, j'ai vraiment en fait, je me suis sentie moins seule, mais quand même ça m'a coupé les pattes et ça m'a rendue profondément triste. J'ai fini cette journée à lire, j'ai eu en tout à peu près 250 messages. Ça m'a un peu démoralisée, quoi. Je me suis dit, putain, on en est là en 2018. Et puis au-delà de toutes les anecdotes quand même assez moches qu'on a pu me raconter, ce qui est aussi beaucoup revenu, c'est le... c'est très français, le présentéisme. Dans beaucoup de pays, ça se passe pas comme ça. On m'a beaucoup parlé, les pays qui sont beaucoup revenus sont... bien évidemment toujours les pays du nord de l'Europe, qui ont vraiment un pas d'avance sur nous, l'Angleterre et le Canada.
Oui, alors j'ai lu que dans les pays nordiques, c'est très mal vu de rester tard,
Parce que ça signifie que t'es mal organisée.
Exactement. C'est aussi beaucoup ce qu'on m'a raconté, puisque des gens qui m'ont raconté ça sont des gens qui bossent dans ces pays-là ou qui ont eu des expériences ou qui ont de la famille, en tout cas qui avaient des expériences réelles, pas juste des trucs lus dans un magazine. Et effectivement, c'est des pays où les gens arrivent tôt. Parce que, alors, là, on parle des parents et des mamans, mais... franchement, je tiens à préciser que j'oublie pas les gens qui ont pas d'enfants. C'est pas un problème que lié à la parentalité, hein. Mais ça se corse quand t'as des enfants parce qu'il faut les gérer. Mais dans ces pays-là, comme tu laisses tes gosses quand même pas très tard à l'école, les gens sont prêts. Donc ils arrivent au boulot tôt. Et du coup, bah, ils partent vers 5h, 5h30 max de max. Effectivement, si tu restes tard, on pense que t'es pas productif. Et on m'a aussi beaucoup raconté des boss qui te fichent dehors quand c'est plus l'heure parce que t'as des enfants et une vie de famille, ou si t'as pas d'enfants ou de conjoints, t'as des potes, tu peux faire du sport, enfin en tout cas t'as une vie. Et c'est des pays où on considère que l'équilibre perso permet d'avoir des gens qui sont plus productifs au boulot.
J'ai lu aussi que si son enfant tombait malade et qu'on devait le garder, eh bien on était quand même payé.
T'étais payé, ouais. Mm. Ouais. T'as même des trucs un peu fous. Une copine qui habite en Hollande m'a raconté, alors j'ai plus le nom en hollandais, vous m'excuserez. T'as des journées, une journée qui est dédiée à la maman, où t'es payé et où t'as une journée pour toi, pour faire ton truc, quoi, faire ta vie.
Souffler.
Voilà. Il y a des vraiment. Enfin, de toute façon, ouais, les pays nordiques sont. Enfin, soit on avance ou nous on est à la bourre, enfin je sais pas, mais en tout cas il y a un décalage qui est énorme, quoi.
Alors, j'ai lu tous les témoignages qu'il y avait suite à ton article de blog, et donc certaines disaient que souvent c'était leur boss masculin qui ne comprenait pas ou qui ne cherchait pas à comprendre leur problématique d'horaire.
Après, je suis pas tout à fait d'accord parce que voilà. Beaucoup, moi j'ai eu beaucoup de boss féminins.
C'est ce que j'ai lu, donc toi tu as répondu que les femmes pouvaient être encore plus.
Et je trouve que les femmes peuvent être encore plus peau de vache. De mes boss, désolée de les citer, mais de toute façon, c'est une boîte qui est tellement connue pour
le bien-être de ses salariés.
Ouais, ma boss chez Publicis, sachant que j'ai eu du harcèlement aussi moral quand j'étais enceinte, hein, bon, ça, on en parlons pas, c'est pas le sujet. Avait elle-même des enfants, mais qui dit meilleur salaire dit plus de possibilités, et avait une jeune fille au pair. Et finalement, niveau d'humanité de cette personne, négatif, quoi.
Oui. Si elle s'en sort, tout le monde doit pouvoir s'en sortir de la même manière.
C'est ça. Sauf qu'en fait, il y a le point financier, bien évidemment, qui est primordial, et puis il y a aussi l'envie, en fait. Voilà.
Oui, parce que toi, là, en fait, tout ton changement professionnel, c'est aussi et surtout parce que tu as envie de passer du temps avec tes enfants le soir.
Alors oui, parce qu'il y a des choses, j'ai envie, mon fils est au CP, ma fille en CM1, je me rends compte qu'on rentre un peu dans les choses sérieuses au niveau de l'école. Les jours où je bosserai, ils vont rester au centre de loisirs à l'étude, ils vont faire leurs devoirs là-bas, mais je veux avoir le temps de savoir ce qui se passe dans leur vie, je veux regarder leur cahier de devoirs, je veux avoir le temps d'en parler avec eux. Alors, je fais une mini aparté, je ne suis pas du tout la maman parfaite. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout en éducation positive. Montessori est assez obscur pour moi. Je suis quelqu'un qui crie beaucoup, qui m'énerve. Mes enfants sont capables de me faire perdre pied. Vraiment, il y a des fois où de passer beaucoup de temps avec eux, c'est dur. Mais malgré tout, c'est la chair de ma chair, et j'ai pas envie de confier certaines tâches à d'autres. Je pense notamment au repas, qui est un vrai moment de partage. En plus, moi, mes enfants sont très relous pour la bouffe. Souvent, ils ne mangent pas la même chose le soir. Si je mets une babysitter là-dedans, mais c'est pas qu'elle y arrivera pas, c'est pas impossible, mais j'ai envie que ça soit moi qui m'en occupe. Et puis aussi, le truc qui a beaucoup changé, c'est que comme depuis un an j'habite en banlieue, le temps de transport est venu rajouter du temps à mes journées et à celles de mon conjoint. Mon conjoint ne prend donc plus le relais en fin de journée à 19h, puisqu'il est passé de 5 minutes à pied à 50 ou 1 heure de transport pour rentrer. Donc moi j'ai envie d'apporter un certain équilibre à mes enfants. J'ai aussi envie, moi, d'avoir le temps le soir... comme je te disais là, d'échanger avec eux, de leur préparer à manger. Quand ils mangent avec mon conjoint, on mange après, en fait. On mange pas avec eux parce qu'ils mangent trop tôt pour nous. Mais de prendre le temps d'échanger, de faire lire les histoires, rigoler, enfin tout ça, quoi. J'ai pas envie de le confier à quelqu'un d'autre. C'est mes enfants, je les aime, ils grandissent à la vitesse du son. Et voilà, je veux les voir.
J'ai l'impression, du coup, qu'en France, c'est si tu travailles, c'est mal d'avoir des enfants, et si tu as des enfants, c'est mal de travailler.
En fait, on est
toujours en train de culpabiliser.
C'est ça, mais on est, selon moi, bien loin de l'époque de nos mamans qui travaillaient pas. Moi, j'ai un grand frère, une grande sœur. Ma maman a arrêté de travailler pour mon frère, donc qui est au milieu. Donc moi, j'ai eu la chance, vraiment, hein, je considère que c'est une chance pour moi d'avoir une maman hyper présente qui venait me chercher à l'école à 4h30, qui m'emmenait aux activités, qui était dévouée à nous. Sauf qu'en fait, j'ai compris en grandissant que ma maman, elle n'était pas heureuse.
Elle avait mis de côté sa carrière.
Et elle était dépendante de mon père. Et c'était pas... En fait, je pense qu'elle s'est rendue compte trop tard qu'elle avait fait une boulette. Donc moi, j'ai pas envie de reproduire ça. D'une part parce que j'ai eu le mauvais exemple de ma maman. Même si pour moi, en tant qu'enfant, c'était génial. Parce que j'ai envie d'être indépendante financièrement. On sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Je suis très bien avec mon chéri. On a une vie qui va bien. On s'aime. Mais peut-être qu'un jour, on s'aimera plus. Ou peut-être qu'un jour, l'un de nous aura un problème de santé ou quoi que ce soit. Et voilà, et je veux bosser. Enfin, ça ne m'épanouit pas d'être maman au foyer. Donc, pour moi, les deux sont importants et je n'ai pas envie de choisir. Donc, j'ai envie de... Vraiment, mon souhait aujourd'hui, à 38 ans, c'est de concilier les deux sans me dire que l'un prend le pas sur l'autre. Et je crois que c'est possible. Mais il faut que les mentalités changent.
Alors, lors de ton coup de gueule, tu proposais à Marlène Chiappa de te rencontrer.
Ouais.
Qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire? Ça se trouve, elle écoutera le podcast, vu que je l'ai rencontrée sur...
J'espère. Effectivement, je l'ai taguée sur Instagram. Après, j'imagine qu'elle a autre chose à faire que de checker à chaque fois où elle est taguée sur Instagram. Quand j'écris mon billet de blog, je l'ai publié sur Twitter et je l'ai taguée aussi. J'ai fait chou blanc, malheureusement, mais je ne m'en veux pas du tout. Qu'est-ce que j'aimerais lui dire? J'aimerais juste lui dire tout ce que je viens de te raconter et qu'il faut vraiment que les choses changent parce qu'on est en 2018, parce que les femmes n'ont plus à être mises de côté parce qu'elles deviennent mères et que je crois que c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que... On me l'a beaucoup dit dans les messages qu'on a pu me laisser et je le constate aussi personnellement. C'est-à-dire que je pense que vraiment je taffe quand j'y suis. On est efficace. On n'enfile pas des perles quand on a envie de rentrer chez soi le soir. Et que du coup, c'est tout à fait conciliable. Et que en plus, je suis pas en train de dire que je pense que les mamans doivent bosser moins. Je suis en train de dire que je pense qu'elles doivent bosser autrement. Et ce que je considère, moi, mieux pour la vie au global. C'est-à-dire pouvoir, si elle le souhaite, parce que c'est pas le cas de toutes, arriver plus tôt le matin et rentrer plus tôt le soir. Voilà, c'est juste ça. Et je comprends pas cette discrimination, en fait, à l'horaire, à l'organisation. J'ai pas compris, là, cette boîte qui a pas voulu me rencontrer. Alors, beaucoup m'ont dit, mais pourquoi tu l'as précisé? T'aurais dû les rencontrer, et puis, quand tu aurais senti que le poisson était ferré, tu l'aurais dit. On m'a aussi proposé de recontacter le cabinet de recrutement en disant « Bon, finalement, je vais m'arranger différemment et je pourrais être là le soir. » Mais non, never, je ne changerai pas. Je n'ai pas à m'excuser de vouloir m'organiser comme ça. Je ne suis pas une plus mauvaise employée parce que je souhaite faire ça. C'est... Voilà. Moi, j'ai besoin d'avoir du temps après le boulot. Ça rime à quoi de rentrer à 20h? Enfin, je veux dire, c'est un peu préhistorique tout ça. Je pense que je suis bavarde, hein, je te coupe.
Non,
en fait, ça me tient hyper à cœur parce que le constat que j'ai pu faire après ce coup de gueule, après avoir lu tous ces commentaires, après avoir lu mon article, enfin écrit mon article de blog, après avoir déversé toute ma frustration, en fait, la conclusion que j'en ai tirée, et c'est quand même là que c'est un peu moche, je me suis dit, de toute façon, c'est un coup d'épée dans l'eau, Et il y a eu une espèce d'émulsion, il y a eu des copines blogueuses, et c'est comme ça que tu m'as découverte, qui ont partagé sur leur Instagram, et j'ai trouvé ça cool, mais ça a duré 24 heures, et 24 heures après, on est passé à autre chose. Ce qui est souvent le cas, on est tellement submergé d'infos, et que moi, finalement, mon petit coup de gueule, c'est que dalle. Et ouais, du coup, aujourd'hui, j'en ressens beaucoup de frustration, parce que... J'aimerais pouvoir faire bouger les choses. En même temps, je sais pas trop comment m'y prendre. Et ouais, ça me frustre parce que je me dis qu'on est tellement nombreuses dans le même cas qu'il y a un vrai problème de société, en fait.
Alors du coup, Marlène est sur le coup, puisque quand je l'ai rencontrée à la table ronde, c'était effectivement pour parler de ce souci, notamment au niveau des familles monoparentales, ouais, où ça se corse encore plus.
Bien sûr.
Coup, pour gérer la carrière professionnelle et la vie de famille. Et donc là, ils sont en train de mener une étude qui va durer, je crois, un an pour justement essayer d'améliorer tout ça au point de vue des entreprises.
Ouais.
Essayer de faire évoluer les choses, bien s'assurer que personne n'est discriminé ou en tout cas faire en sorte que ça évolue. Donc on croise les doigts.
Ouais, on croise les doigts, je trouve ça hyper cool, mais après, moi, je pense que le problème de fond, c'est que beaucoup n'osent pas parler en entreprise. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai reçu beaucoup de messages, parce que ça a fait du bien à beaucoup de femmes de vider leur sac, parce qu'elles l'ont fait en message privé et que du coup, c'était anonyme. Enfin, il n'y a que moi qui ai pu voir. C'est déjà un gros pas en avant, hein. Je pense que le gouvernement s'y intéresse. Après, je veux pas être pessimiste, mais j'espère que ça prendra pas trop de temps. Et que pour moi, au-delà du fait que le gouvernement s'y intéresse, je sais pas comment ils vont faire, ils vont sûrement rencontrer beaucoup de femmes, il faut que les gens parlent, elles le disent, parce que c'est en parlant et en racontant son expérience que les autres se rendent compte qu'ils sont pas seuls et que c'est effectivement pas normal. Donc j'espère que, ouais, que les choses vont bouger et que les gens vont oser parler. Mais on est sur un vrai problème de société et qui doit bouger parce que c'est maintenant, quoi.
Si tu veux bien, on va passer aux questions rituelles des fins d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Alors, je suis même plus une maman parisienne parce que je suis une maman banlieusarde, mais on me dit que c'est presque pareil. Je pense que c'est être un peu plus stressée qu'ailleurs. Moi, j'ai grandi en province. Et je pense que la maman parisienne court un peu quand même partout. C'est un peu ça, un peu tout géré, un peu vite tout le temps.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré ?
J'en ai plein. En plus, comme tu le sais, j'aime bien découvrir des endroits chouettes. J'en parle sur mon autre blog qui s'appelle Mon Macadam. Mon endroit préféré kids-friendly... C'est pas forcément qu'ils se feraient une liste sur le papier, mais j'adore aller au Cerf d'Auteuil, qui est un endroit où on peut donc se balader avec des enfants et qui est plein de verdure et qui est vraiment, vraiment joli, que j'aime beaucoup. Et après, ouais, j'en ai plein, j'en ai pas un proprement parlé.
On ira sur le site
ouais,
de mon magasin.
Plein de balades, il y a tellement de trucs à faire dans Paris, c'est assez infini, c'est difficile du coup d'en choisir un.
Quels sont tes projets pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors pour moi, j'ai jamais de projet particulier, mais j'en ai toujours beaucoup. Mes projets, c'est de continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire j'ai mes deux blogs qui m'occupent beaucoup avec mes potes. J'aime coudre, j'ai envie de continuer à coudre des choses pour mes enfants, pour moi, vraiment voilà, à me consacrer à tout ça. Donc ça, c'est très au global, tout le temps, toute l'année, c'est ce que j'aime faire. Les projets pour la famille, on a un chouette voyage qui arrive bientôt, donc ça c'est cool. Les voyages forment la jeunesse et ouvrent l'esprit des parents et des enfants, donc ça c'est un chouette truc qui nous attend en fin d'année. Et puis après, au niveau perso, vraiment moi, au-delà de mes enfants et de ma vie de famille, j'espère sincèrement réussir à m'épanouir dans cette nouvelle vie que j'ai envie d'avoir, où j'ai envie de tout concilier au mieux. Grosse pression.
Et ben, je te le souhaite en tout cas.
Merci, c'est gentil.
Merci beaucoup, Paul.
Merci à toi.
À bientôt.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles. Pour échanger sur le sujet abordé avec Paul, je vous invite à retrouver la photo sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.